France Culture, il est 16h. Tout de suite, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Comme toujours, vos réactions sont attendues sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. La bataille du nucléaire aura-t-elle lieu en France ? EDF, entreprise détenue à 84,9% par l'État, va-t-elle obéir aux injonctions du gouvernement qui lui demande de lancer la procédure de fermeture de la centrale de Fessenheim avant la fin de l'année 2016 ? Hier encore sur Europe 1, la ministre de l'Environnement et de l'Énergie, Ségolène Royal, a réaffirmé que cette échéance devait être tenue. Mais EDF réclame une indemnité d'au moins 2 milliards d'euros pour compenser cette fermeture, alors que Ségolène Royal propose 100 millions d'euros. Les conditions d'un véritable bras de fer entre EDF et l'État sont donc rassemblées. Son résultat sera sans doute décisif pour l'avenir du nucléaire en France. En effet, la fermeture de Fessenheim, qui aura 40 ans de fonctionnement en 2017, constituerait une première et elle ouvrirait la porte à d'autres arrêts de réacteurs nucléaires. Si le gouvernement s'active aujourd'hui, c'est en partie pour honorer un engagement de François Hollande sur une fermeture de Fessenheim fin 2016. Cette échéance a été reculée en raison du retard sur la mise en service de la nouvelle centrale EPR de Flamanville, aujourd'hui prévue pour fin 2018. Un autre engagement de François Hollande est concerné par cette fermeture, la réduction de la part de l'électricité nucléaire de 75% aujourd'hui à 50% d'ici 2025. Par ailleurs, la loi de transition énergétique, adoptée en juillet 2015, plafonne la capacité de production nucléaire en France à 63,2 gigawatts, c'est-à-dire la capacité du parc actuel de 58 réacteurs répartis dans 19 centrales. Pour respecter ce plafond, la mise en service de l'EPR de Flamanville doit donc être compensée par l'arrêt d'une autre centrale. Le retrait des deux réacteurs de 900 MW de Fessenheim, soit 1800 MW, ne serait pas entièrement compensé par les 1600 MW du nouveau réacteur EPR de Flamanville, d'où une amorce assez infime de réduction de la puissance nucléaire installée en France. L'affrontement actuel entre l'État et EDF révèle la difficulté de sortir de ce qui constitue une véritable exception française. En nombre de réacteurs, seuls les États-Unis nous dépassent avec 104 réacteurs contre 58, mais la part du nucléaire dans la production d'électricité, mais pour cette part-là, la France arrive largement en tête, les États-Unis ne sont qu'à 20%. Contre donc 75% en France. Outre le débat sur les dangers particuliers que représente le nucléaire, la grande question est de savoir comment les énergies renouvelables pourront se développer si la part du nucléaire n'est pas fortement réduite. C'est tout l'enjeu du bras de fer actuel et c'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Nous recevons dans Sciences Publiques en direct et presque en temps réel, puisque certaines de nos invités viennent juste d'arriver dans le studio 1 de la Maison de la Radio, Bruno Combi, président de l'Association des écologistes pour le nucléaire, auteur du livre « Le nucléaire, avenir de l'écologie » aux éditions TNR. Patrick Criqui est économiste, directeur de recherche au CNRS dans le pôle énergie du laboratoire d'économie appliquée de Grenoble. Jean-Jacques Delfour, philosophe, essayiste et auteur de « La condition nucléaire, réflexion sur la situation atomique de l'humanité », publié aux éditions de L'Échappée en 2014. Bernard Laponche est docteur et sciences en physique des réacteurs nucléaires, membre de l'association Global Chance et auteur de « En finir avec le nucléaire, pourquoi et comment », publié au Seuil. Et nous sommes également avec Jacques Trainer, physicien et habitué de l'émission Sciences Publiques, puisqu'il fait partie du club Sciences Publiques qui se réunit régulièrement. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos commentaires et vos réflexions sur le site de Sciences Publiques, tout en bas de la page de l'émission sur franceculture.fr. « Pour amorcer ce débat, je vous propose de réagir à la situation que j'ai décrite en introduction, c'est-à-dire à ce bras de fer entre l'État et EDF au sujet de la fermeture de la centrale de Fessenheim. Bruno Combi, bonjour.
Bonjour.
Alors, que vous inspire ce bras de fer donc, entre la ministre Ségolène Royal et la direction d'EDF ?
Écoutez, je pense que c'est très regrettable parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une bataille du nucléaire. On est dans un monde qui aujourd'hui fonctionne à plus de 80% sur les énergies carbonées, le pétrole, le gaz et le charbon. Et on vise pour demain un monde sans carbone. Donc il va nous falloir, pas un petit peu, mais beaucoup, même énormément d'énergie décarbonée. Il y a les énergies renouvelables et le nucléaire. Pour l'instant, c'est le nucléaire qui en fait le plus, avec l'hydraulique, bien sûr. Et le solaire et l'éolien y contribuent aussi, mais un tout petit peu. Et on va avoir besoin de toutes les énergies bas carbone qui existent, et notamment du nucléaire, qui est une énergie propre, sûre et respectueuse de l'environnement. Donc, heureusement qu'on a le nucléaire en France. D'ailleurs, le monde entier nous l'envie. L'Inde, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni construisent des réacteurs nucléaires. C'est quand même pas des petits pays. Et donc, nous qui servons d'exemple au monde entier, eh bien, je pense que nous devons poursuivre dans cette voie et continuer à donner le bon exemple.
Ça veut dire ne pas fermer Fessenheim ?
Ne surtout pas fermer le Fessenheim, qui est une centrale qui est reconnue propre par l'autorité de sûreté, sûre, qui a été remise à jour, qui est donc à un excellent niveau de sûreté. Et donc, il n'y a aucune raison de fermer Fessenheim aujourd'hui, bien au contraire.
Très bien. Alors déjà, Jacques Trenner veut réagir peut-être tout de suite à ce
oui,
premier
propos. Oui, c'est par rapport à Fessenheim. On a une règle du jeu en France, qui est l'Agence de sûreté nucléaire, qui,
l'ASN,
oui, qui examine et valide ou pas, moyennant travaux ou pas, le fonctionnement des centrales nucléaires. Bon, alors, cette affaire de Fessenheim, c'est une promesse de campagne du candidat Hollande. C'est un troc avec les Verts. C'est échanger des voix contre la fermeture d'une centrale. Et voilà, à partir du moment où l'ASN dit, et c'est ce qu'elle a dit, que moyennant travaux qui ont été engagés par EDF, la centrale peut continuer, c'est ridicule de se poser ce problème.
Très bien, voilà une prise de position très claire. Patrick Criqui, peut-être pour enchaîner, vous êtes avec nous donc en duplex depuis Grenoble. Quel est votre sentiment sur cette décision qui a l'air de reprendre un peu du poids de la bête alors qu'on avait pu penser à un moment que la centrale ne serait pas fermée avant la fin du quinquennat. Quel est votre sentiment sur ce bras de fer en cours ?
Eh bien, je pense qu'il faut savoir replacer ce bras de fer dans un contexte à plus long terme. C'est-à-dire qu'il y a actuellement, en effet, des escarmouches entre le gouvernement et EDF. L'émission s'appelle « Y aura-t-il une bataille du nucléaire ?» Effectivement, là, on assiste à des escarmouches. Je pense qu'il y aura en 2017, à l'évidence, une bataille d'idées dans la campagne électorale autour de la question du nucléaire. Et il est très probable que les différents candidats porteront des visions différentes de l'avenir du nucléaire à long terme. Et on arrive là à la question qui m'apparaît la plus importante et qui est de savoir quel est le mix électrique, quelle est la combinaison des moyens de production d'électricité en France que l'on vise pour un horizon, disons, 2025, 2030 et au-delà. Et il me semble qu'au-delà, en effet, des escarmouches, il convient de s'interroger sur quelles sont les solutions souhaitables à très long terme pour l'évolution du système électrique français.
Bien sûr, alors on va y revenir. Bernard Laponche, bonjour.
Bonjour.
Alors vos positions sur le nucléaire dans vos livres sont assez clairement contre cette énergie. Vous n'êtes pas du tout un supporter de l'énergie nucléaire pour fabriquer de l'électricité. Mais déjà une première réflexion sur cette invective du gouvernement vis-à-vis d'EDF et semble-t-il les réticences d'EDF à obtempérer.
Mais si vous voulez, en gros, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que je crois que des deux côtés, il y a énormément de comédie. Parce qu'EDF et l'État sont quand même très liés, puisque l'EDF dépend à 85% de l'État. Que l'État ne veut pas se passer d'EDF, puisque c'est une société extrêmement puissante et qui fournit l'électricité aux Français. Donc je crois qu'il y a là un peu de comédie, et je crois qu'il faut poser le problème de façon différente. C'est-à-dire ne pas s'intéresser particulièrement à cet épisode, mais de voir sérieusement, de réfléchir à la position du nucléaire.
C'est quand même cet épisode qui remet la fermeture de Fessenheim un peu sur la table.
Oui, tout à fait. Mais si vous permettez, au niveau mondial, on voit bien qu'il y a en France une crise nucléaire qui est évidente par les difficultés d'Areva, par les difficultés d'EDF, par les difficultés de l'EPR avec ses retards et l'augmentation des coûts, par l'échec de l'EPR finlandais. Enfin, on est dans une situation qui est quand même difficile et les gens en prennent conscience. Mais au niveau mondial, la crise, si on peut dire, ou la question du nucléaire était posée depuis assez longtemps, puisque le sommet de la proportion d'électricité produite par le nucléaire dans le monde a été atteint en 1996. C'était 18%, et là, c'était le même niveau que l'hydraulique. C'est-à-dire, c'était les deux sources non fossiles qui avaient cette position. On est aujourd'hui à 11%, alors que les renouvelables représentent 23%. Donc, on voit bien que la part du nucléaire a baissé. Et même du point de vue en valeur absolue, elle a atteint son sommet en 2006, et elle a également diminué. Donc on a vraiment une situation mondiale qui n'était pas du tout ce qui était prévu dans les années 70 ou 80, où le nucléaire était triomphant. Et le nombre maximum de démarrages du nucléaire a été atteint en 1986. Et depuis, ça a décru. Donc il faut quand même être conscient qu'on est dans une situation où la France a une situation particulière, mais elle doit tenir compte de cette évolution mondiale de façon très importante.
Très bien. Jean-Jacques Delfour devait être avec nous depuis Toulouse. Est-ce qu'il nous entend ?
Oui, tout à fait, je suis là.
Ah, je vous entends, mais de façon assez faible. Et j'espère qu'on va pouvoir monter un petit peu le son de votre voix. Alors, vous êtes philosophe. Alors, c'est intéressant d'avoir le regard d'un philosophe sur cette question du nucléaire en France. On voit que déjà, les avis sont assez partagés. Comment vous jugez ce moment actuel là, de débat autour de Fessenheim qui pourrait être un moment un peu charnière ?
Moment charnière, seul l'avenir le dira. Ce qui me semble frappant, c'est que ce désaccord de surface, en apparence, entre EDF et l'État, participe d'une occultation générale qui rend possible le débat sur l'énergie nucléaire comme étant une énergie comme les autres. Je voudrais insister sur le fait que ce débat-là et tout le discours qu'on entend sur l'énergie nucléaire présumée propre et sûre, c'est comique, s'inscrit dans une série d'occultations. Occultations qui sont très anciennes, qui ont démarré dès les années 50. Occultations de la dangerosité. Chaque réacteur est un volcan radiologique en puissance et de plus en plus souvent en acte. On a failli avoir un Tchernobyl en France avec le Blayais en 99, dû à une tempête océanique. Deuxième point, occultation de la minimisation systématique des dangers. Dangers sanitaires très graves qui ont été signalés dès 1927 par Hermann Joseph Müller. Et on a plein de recherches très peu citées naturellement, mais qui établissent qu'il n'y a pas de seuil d'innocuité. Troisième occultation, l'irresponsabilité civile des exploitants nucléaires. Il faut savoir que depuis 1957, les exploitants nucléaires ont pratiquement des sommes dérisoires à payer en cas d'accident nucléaire. L'occultation de la production systématique de l'ignorance. On dissimule les données, on les détruit éventuellement. Il y a une propagande qui a été mise en place en 1958 par l'OMS, enfin auquel l'OMS a participé. Je voudrais citer juste deux lignes d'un rapport d'un groupe d'études des questions de santé mentale que pose l'utilisation de l'énergie. Du point de vue de la santé mentale, la solution la plus satisfaisante pour l'avenir des utilisations pacifiques de l'énergie atomique serait de voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s'accommoder de l'ignorance et de l'incertitude. Je crois qu'il y a aussi un autre objet, qui est un autre aspect, qui est l'occultation de l'irrationalité symbolique. Le nucléaire français est totem et tabou, une religion technoscientifique, une sorte de roman national, le rayonnement de la France. Et puis, dernier point, je crois que tout ce discours sur l'énergie nucléaire occulte l'impuissance. Les catastrophes nucléaires infinies sont la démonstration, Fukushima était la dernière, de l'incompétence tragique des scientifiques et des ingénieurs. Leurs créatures, les êtres radioactifs, les radionucléides leur échappent. Personne ne sait comment décontaminer, personne ne sait garantir la sécurité, personne ne sait que faire des déchets radioactifs, personne ne sait comment démanteler vraiment. Démanteler, c'est enrober, déplacer, enfouir, disperser. Donc tous ces aspects contribuent, enfin, une fois occultés, il est possible de faire semblant de considérer l'énergie nucléaire comme étant l'énergie parmi d'autres comparables. Or, il y a un hiatus énorme entre toutes les autres productions d'énergie et l'énergie nucléaire.
Très bien. Alors, peut-être une réaction de Bruno Combi, qui, donc, lui, milite pour une vision assez écologiste du nucléaire. Donc là, on en est loin dans les propos de Jean-Jacques Delfour.
Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a deux sortes d'écologistes. Il y a les écologistes passéistes, rétrogrades, qui prônent en quelque sorte le retour à la bougie. Et pour ma part, j'habite dans une maison positive en énergie, en proche banlieue d'ici. Je vous invite à venir visiter. C'est fort intéressant. On peut consommer beaucoup moins, il faut le faire. Ça contribue à améliorer notre balance énergétique. Mais même avec cette maison à très basse consommation d'énergie, qui produit plus que ce qu'elle consomme, je suis bien content d'habiter en France pour avoir en hiver, au moment où il n'y a pas de soleil, quand même de l'énergie et de l'électricité nucléaire propre, sans CO2, pour alimenter ma maison. Et donc on peut économiser l'énergie, il faut le faire. On peut produire avec des panneaux solaires, par exemple, comme je le fais moi-même. Il faut le faire aussi, mais l'inconvénient des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont à la fois diffuses, c'est-à-dire qu'il faut des très grandes surfaces de capteurs pour produire finalement pas grand-chose et à prix d'or, et elles sont aussi intermittentes. Or, on a besoin d'électricité quand on appuie sur le bouton. On ne sait pas la stocker en grande quantité pour l'instant. Et donc, pour l'instant, pour produire l'énergie de base, c'est-à-dire celle dont on a besoin tous les jours à la demande, eh bien, le nucléaire est une énergie tout à fait adaptée. Donc, je fais partie des écologistes modernes, la nouvelle tendance, dans l'association des écologistes pour le nucléaire. Nous avons des fondateurs historiques de l'écologie. Par exemple, mon ami Patrick Moore, qui était le cofondateur de Greenpeace en 1971, ou encore James Lovelock, qui est considéré comme le grand-père historique de la pensée écologiste avec la théorie de Gaïa, et qui sont tous les deux membres de notre association. Donc, on voit qu'il y a des pères fondateurs historiques de l'écologie qui sont avec nous, et en tout, nous avons maintenant 12 000 membres et signataires dans 65 pays. Donc on voit que c'est la nouvelle tendance de l'écologie qui monte, de l'écologie ouverte sur le progrès technique, et qui est une écologie optimiste, et non pas pessimiste, à voir des catastrophes partout, comme Jean-Jacques Delfour, que je respecte bien sûr, mais qui vient de nous parler de mots qui sont extrêmement négatifs, catastrophe, occultation, incompétence, tragique. Je trouve que la rhétorique est quand même assez négative. Moi, je suis partisan de construire, d'aller de l'avant, d'être optimiste, et pour être dans un monde, on a bien de la chance d'avoir de l'électricité à profusion aujourd'hui, et pourvu que ça dure.
Alors Bernard Laponche, peut-être avant d'autres réactions.
Oui.
Le nucléaire écologique.
Écoutez, si on dit que le seul critère de choix d'une énergie, c'est les émissions de gaz carbonique, effectivement, le nucléaire n'émet pas, ou émet peu. C'est pas zéro, et se place à peu près un peu au-dessus des énergies renouvelables. Mais c'est pas le seul critère. Et quand on dit que c'est.
Il y a les trois qualificatifs. Ça aide bien la France à avoir aujourd'hui un taux d'émission.
Bien sûr, bien sûr, c'est le critère. Mais les déchets radioactifs, si vous prenez les déchets radioactifs comme critère de choix d'une énergie, ben à ce moment-là, vous faites tout le reste sauf le nucléaire. Donc il faut un équilibre. Dans les choix. Et quand on dit que c'est une énergie qui est... Les grands arguments, c'était elle est sûre, elle est propre et elle n'est pas chère. Ben, ces trois arguments, l'histoire a montré qu'ils étaient faux. Elle n'est pas sûre. On a eu des accidents graves, Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima. Et le président de l'autorité de sûreté nucléaire nous dit qu'un accident de type Fukushima ou Tchernobyl est possible en Europe et en France, ce qui n'est pas rien. Donc on peut dire que c'est sûr. Elle n'est pas propre parce qu'elle produit des rejets et des déchets radioactifs. Et maintenant, il se trouve qu'elle est de plus en plus chère, y compris par rapport aux énergies renouvelables et encore plus par rapport aux économies d'électricité, sur lesquelles on peut être d'accord avec Combi. Donc, réfléchissons à toutes les alternatives possibles pour effectivement ne pas avoir une espèce de religion du nucléaire qui est de plus en plus... Je veux dire, erroné.
Alors, voilà. Tout le monde veut réagir, bien entendu, mais on va essayer de permettre à chacun de s'exprimer. Jacques Trenner.
Oui, je voudrais prendre le problème à reculons, en quelque sorte. C'est-à-dire, prenons la situation mondiale et les besoins en énergie. À l'heure actuelle, alors je vais prendre l'unité qui est utilisée normalement quand on envisage les choses à l'échelle mondiale, c'est le milliard de tonnes équivalent pétrole, la gigatep. Bon. Peu importe ce que c'est, on va raisonner en chiffres relatifs. À l'heure actuelle, nous sommes 7 milliards d'individus et on consomme 13 gigatep. Sur ces 13, un peu plus de 10, c'est des combustibles fossiles. À échelle 2050, ou enfin vers la deuxième moitié du siècle, on sera probablement 10 milliards d'individus. Et si, alors, une donnée extrêmement importante, c'est de savoir est-ce qu'on peut anticiper quelle va être la demande d'énergie. Or, la demande d'énergie, elle va être à la fois motivée par l'augmentation de la population, donc c'est une simple règle de trois, et puis ensuite
sauf
par l'émergence.
Les besoins ne sont pas les mêmes,
oui,
suivant les pays.
Bien sûr, mais précisément, les pays émergents émergent, et émerger, ça veut dire consommer de l'énergie. Donc, on consomme 13 aujourd'hui, et envisager, alors il faut regarder plus en détail, on ne peut pas le faire ici, mais évaluer une demande énergétique à cette échelle-là de temps entre 20 et 25 gigatep, ce n'est pas déraisonnable. C'est presque un facteur 2 par rapport à maintenant. Et maintenant, vous prenez toutes les énergies renouvelables, toutes, y compris les économies d'énergie. Vous poussez le curseur au maximum. Vous regardez ce que le Wind Energy Association envisage à échelle 2030-2050. Vous regardez les projections du photovoltaïque. Vous regardez l'hydraulique. Vous regardez la biomasse, etc., etc. Et vous êtes en dessous de 10. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de désaccord là-dessus. Vous êtes en dessous de 10 quand vous poussez tous les curseurs au maximum de ce qu'on peut faire. Et il faut plus de 20. Donc, il reste deux chantiers. C'est un peu de fossiles avec émissions de CO2. Ça vous amène de 8 à 12, quelque chose comme ça. Et puis après, il n'y a plus que deux pistes. C'est le fossile avec capture et stockage du CO2 et le nucléaire. Et donc, moi, je suis... Comment dire? Je mets pas de valeur... Tout ça, c'est de la plomberie. Hein, donc, il n'y a pas de valeur éthique dans cette affaire-là. Je crois qu'il faut pas prendre des problèmes sous l'angle éthique. Le CO2, il n'y a pas d'éthique à émettre du CO2 et à l'envoyer sur l'ensemble de la planète et à faire dériver le climat. Qu'est-ce que ça veut dire opposer l'éthique d'un côté et pas l'éthique de l'autre? C'est grotesque. C'est des problèmes de plomberie. Il faut les régler. Voilà. Et alors, il y a plusieurs composantes. Je suis d'accord sur le problème des déchets. C'est pas un problème simple. D'accord. Mais le problème du CO2 est encore moins simple. Il est beaucoup plus compliqué à résoudre que le problème des déchets nucléaires avec l'enfouissement. C'est local. Il n'y a pas de grosses quantités. On l'enfouit, etc. Mais il faut bien se mettre d'accord sur ça. Quelle va être la demande énergétique mondiale à l'échelle du milieu du siècle?
France Culture, Science Publique, Michel Alberganti.
Je vous rappelle que nous débattons aujourd'hui autour de la question « La bataille du nucléaire aura-t-elle lieu en France ?» avec nos invités Bruno Combi, président de l'Association des écologistes pour le nucléaire, Patrick Criqui, économiste et directeur de recherche au CNRS, Jean-Jacques Delfour, philosophe et essayiste, Bernard Laponche, physicien et membre de l'association Global Chance, et Jacques Trainer, physicien. Alors peut-être une réaction de Patrick Criqui qui est à Grenoble et donc un peu défavorisé par le duplex. Sur ce que vient de dire Jacques Trainer, quel est votre sentiment ?
Eh bien, mon sentiment, c'est que, en effet, il faut reposer les questions énergétiques dans une perspective globale. Je serais d'accord avec Bernard Laponche pour dire que la question du climat et des émissions de gaz à effet de serre ne constitue pas la seule difficulté à traiter dans l'examen des futurs énergétiques mondiaux. C'est néanmoins une question très structurante et la conférence COP21 à Paris a bien montré que les objectifs que nous devions adopter dans ce domaine sont tout de même extrêmement ambitieux et qui ne seront pas faciles à atteindre. Et par conséquent, on ne peut s'empêcher, on ne peut occulter la difficulté qu'il y a à réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. C'est ce qu'on nous demande. Alors, Jacques Trainer a donné quelques pistes. Il a une manière de présenter les futurs possibles. J'ajouterais que toutes les études qui ont été menées récemment, et y compris avant la COP21, montrent qu'un futur décarboné pour la planète, et au sein de la planète pour la France, est composé de trois grandes lignes d'action. La première, c'est effectivement l'efficacité énergétique, comme l'indiquait Bernard Laponche. La deuxième, c'est la décarbonation du système électrique et des autres vecteurs énergétiques, mais l'électricité apparaît jouer un rôle très important tout de même dans la possibilité de construire des systèmes bas carbone. Et enfin, le dernier élément, c'est des transferts d'usage, c'est-à-dire en particulier, par exemple, arriver à remplacer le pétrole par de l'électricité dans le secteur des transports. Ça, c'est un résultat qui est assez robuste, quelles que soient les méthodes utilisées, les modèles utilisés. On arrive vraiment à cette conclusion selon laquelle ce triptyque efficacité, décarbonation de l'électricité et transfert d'usage constitue en quelque sorte le squelette ou ce qui structure les politiques de développement énergétique bas carbone. Alors après, une fois qu'on a fait...
Excusez-nous, on va y revenir parce qu'il faut qu'on arrive à donner un peu la parole, à distribuer la parole. Bruno Combi voulait intervenir.
Oui, je voulais réagir parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Patrick Criqui, et notamment dans le domaine des transports qu'il a évoqué. On voit aujourd'hui un développement de plus en plus important des voitures électriques. Donc moi-même, je roule en voiture en Renault Zoé, j'en suis très content. C'est un moyen de transport formidable. Et pour alimenter toutes ces voitures électriques qu'on voit arriver sur nos routes, il va falloir non pas moins d'électricité, mais au contraire plus d'électricité, et tant qu'à faire, de l'électricité propre. Donc on va faire comment ? Eh bien, les renouvelables, oui, mais c'est très limité. Donc bien, le nucléaire, ça va quand même nous aider. Heureusement qu'on a ça. Voilà, donc pour raisonner d'une manière saine dans un monde qui, globalement, à l'échelle du monde, va avoir besoin de plus d'électricité avec beaucoup de pays qui se développent, comme nous l'a dit Jacques Trenner, et pour alimenter toutes ces voitures électriques et ces nouveaux usages de l'électricité qui se doit d'être propre et sans carbone, eh bien, nous avons le nucléaire.
Alors, oui, effectivement, mais quand, par exemple, on fait référence à un rapport de l'ADEME, qui, lui, n'est pas un organisme militant particulièrement pour les énergies renouvelables et qui a quand même bâti un scénario à 100% renouvelable, on est très loin de votre solution qui a l'air indispensable et incontournable, qui est le nucléaire. Sans le nucléaire, pas de salut.
Mais comme vous le dites vous-même, il s'agit d'un scénario. Et il faudrait étudier un autre scénario, qui est le scénario 100% nucléaire, qui serait beaucoup plus facile et moins coûteux à faire que le scénario 100%
renouvelable. Un point technique sur le rapport de l'ADEME, parce qu'il a un statut tout à fait étrange. En fait, si vous lisez l'introduction de ce rapport, il dit explicitement qu'il ne s'agit pas d'un scénario. Pourquoi ? Parce qu'il ne tient pas compte de l'existant. Et donc, vous voyez, vous avez une agence qui est censée conseiller le gouvernement sur les politiques d'investissement, sur quel secteur développer, etc., et qui ne tient pas compte de l'existant. Ça n'est pas un scénario, c'est un point dans le futur, dans lequel on construit ex nihilo, c'est explicitement dit, on construit ex nihilo un mix énergétique 100% renouvelable, en se donnant des coups qui sont tirés du chapeau, mais qui ne correspondent à rien de réel. Ce scénario n'est pas un scénario, et il ne permet en rien de conseiller le gouvernement. Donc l'ADEME n'a pas fait son boulot dans cette affaire-là.
Bernard Laponche.
Plusieurs choses. D'abord, je récuse le mot énergie
Approchez-moi
propre.
Un petit peu du micro.
Je récuse le mot énergie propre pour le nucléaire. Qu'on moi parle aussi, de l'énergie nucléaire, mais arrêtons. Oui. Énergie propre, énergie sale.
Disons décarbonée.
Voilà,
décarbonée. Bon, mettons décarbonée, énergie propre. Bon, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, sur l'histoire, très rapidement, sur ce que vous avez sur le rapport de l'ADEME est tout à fait juste. Mais en 73, sur le nucléaire, on est aussi parti ex nihilo. On avait exactement. On avait des projections qui nous disaient qu'en 2000, il fallait 1000 milliards de kilowattheures, alors qu'on a été à 450, qu'il y aurait 20 superphénix et qu'au monde, il y aurait 400 superphénix. J'ai fait de la prospective toutes les années 70. Je peux vous garantir que c'est vrai. Donc, il faut...
Mais il n'y avait pas le problème de substituer quelque chose à quelque chose d'autre.
Le problème, c'est la substitution.
Non. Dans les années 70, il y en avait très peu. Mais il y en avait très peu.
75%.
Dans l'électricité.
Mais c'est 75%
de quelle quantité absolue ?
75% de la production d'électricité en 75 était au pétrole.
Oui, mais quelle quantité, de façon absolue ? Très peu par rapport à aujourd'hui.
Pas très peu. Mais quoi ? Un tiers, monsieur, c'est pas rien, c'est pas très peu.
Non, mais donc, c'est pas le problème d'aujourd'hui où il s'agit de substituer.
Il faut se méfier. La prospective, ce n'est pas de prédire le futur, c'est d'étudier les différents scénarios possibles. Et quand on prend le cas de la France, on nous dit, la loi, on peut en discuter, la loi de transition énergétique nous dit on va réduire de 50% la consommation d'énergie. Donc, on peut examiner si c'est possible. On passe de 157 consommation finale, 154 millions de TEP, toujours la même unité, c'est des millions au lieu des milliards, à 77. Et les 77, on peut les faire avec les énergies renouvelables en France. Mais, effectivement, il faut s'y mettre. Donc, il ne s'agit pas de se battre sur des chiffres. C'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver, effectivement... Et le premier enjeu, que ce soit en France ou que ce soit au niveau mondial, c'est les économies d'énergie. C'est-à-dire consommer mieux et consommer moins, ce qui est quand même assez connu. Et le potentiel est considérable.
Jean-Jacques Delfour.
Oui, je trouve ce débat totalement surréaliste, et même, je dirais plus précisément, irréaliste. en particulier parce que ce qui est occulté, encore une fois, c'est la dangerosité de l'énergie nucléaire. Les déchets radioactifs, chaque centrale aujourd'hui a une autorisation administrative de pollution de l'environnement. Et il se trouve que le contrôleur et le contrôlé sont une seule et même personne. Et on pourrait multiplier les exemples. Sur le coût d'un accident nucléaire, l'IRSN a proposé en 2015 une estimation à partir d'un exemple fictif d'un réacteur qui serait celui de Dampierre près d'Orléans. Avec, on présuppose dans le calcul qu'un tiers du réacteur fond, en fusionne, et 2 heures seulement de relâchement. Pourquoi 2 heures? Parce que sans doute si on mettait 3 heures, ça multiplierait par N le coût. Avec des conditions si petites et si peu réalistes. C'est-à-dire que si l'enceinte de confinement est brisée, 2 heures, ça ne va pas s'arrêter au bout de 2 heures par miracle. Ils arrivent quand même à 430 milliards d'euros, dont 345 millions seraient payés par l'État et 91 par EDF.
430 milliards
d'euros. Ah oui. C'est le chiffre de l'IRSN, 430 milliards d'euros pour un accident qui impliquerait un tiers de fusion, un tiers seulement, et 2 heures de relâchement de radioactivité dans l'atmosphère. Il faudrait évacuer 25 000 km² deviendrait inhabitable. Il faudrait évacuer 2,6 millions de personnes, dont la ville d'Orléans, mais, dit l'IRSN, il serait réaliste d'en évacuer seulement 26 000 et d'indemniser les autres. Et on aurait peut-être environ 50 000 cancers.
Peut-être une...
Ce sont des dimensions de ce type, quoi. C'est complètement délirant.
Une réaction sur ce point précis, peut-être, avant d'aller plus loin. Jacques Trainer, pour vous, c'est une dimension à prendre en compte ou pas?
Alors, la question du nucléaire et du futur du nucléaire, c'est effectivement ce point-là. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas... Garantir qu'il n'y aura pas d'accident, ça c'est impossible, évidemment. On ne peut pas garantir qu'il n'y ait pas d'accident. Mais il faut qu'en cas d'accident, il n'y ait pas de relâchement de radioactivité dans l'environnement.
Mais ça, c'est pas
ça,
possible.
Ça, c'est la condition. Mais vous dites que ce n'est pas possible. Ça fait 30 ans que ça fonctionne en France et qu'il y en a... il y a eu de temps en temps quelques rejets, mais qui ont été absolument minimes.
Il n'y a pas eu
d'accident. Non, mais... Enfin, il y a eu des incidents.
Oui, incidents, mais pas d'accidents.
Voilà, c'est ça, il n'y a pas eu d'accident. Donc, on peut évidemment s'amuser à prendre le tsunami et le projeter sur la Loire, et on aboutit à des choses...
Au Blayais, il n'y avait pas de tsunami, il y a eu une tempête en 1999 qui a mis la centrale en difficulté.
Oui.
Donc ça, c'était en France.
Oui, bien sûr, oui. Mais oui, mais vous savez, la sécurité, comme dans n'importe quelle technologie, la sûreté et la sécurité... s'améliore à travers les accidents, les incidents. C'est vrai pour n'importe quel...
Suivant les technologies, les conséquences de l'accident ne sont pas quand même tout à fait les mêmes.
Sûr,
c'est-à-dire une centrale à pétrole qui a un problème, si vous voulez, ça ne provoque pas les mêmes dégâts. Je voudrais quand même donner la parole.
Et la voiture, depuis le début du XXe siècle, a fait 50 millions de morts, plus que la Deuxième Guerre mondiale.
Bruno Combi.
Oui, comme vous venez de le dire, Michel, selon les technologies, ça ne fait pas du tout la même chose comme accident. Et dans le nucléaire, il y a aussi plusieurs technologies nucléaires. Et la technologie qu'on a en France des réacteurs à eau sous pression n'est pas celle des réacteurs à eau bouillante des Japonais, qui n'était pas celle des réacteurs RBMK des Russes. L'accident le pire qu'on puisse avoir en France, eh bien, il s'est déjà produit. Donc on a un modèle à étudier, c'est l'accident de Three Mile Island en 1979, dont il convient quand même de rappeler qu'il a fait 0 mort et 0 blessé, parce qu'il n'y a quasiment pas eu de rejet dans l'environnement. Donc ça, c'est l'accident le pire qu'on puisse avoir en France, et c'est la grosse différence, c'est l'épaisseur des enceintes de confinement. À Tchernobyl, il n'y avait pas d'enceinte de confinement. À Fukushima, il y en avait une, mais elle faisait seulement 10 cm d'épaisseur, et nos réacteurs ont tous une enceinte d'1 mètre de béton armé d'épaisseur de confinement. Ce qui fait qu'en cas d'accident, eh bien, tout est contenu dans le bâtiment réacteur, et du coup, il n'y a pas ou extrêmement peu d'impact sur la santé publique.
Une réaction de Bernard Laponche qui fait des dénégations de la tête.
Mais non, bien sûr, que moi je dise ce que je vais dire n'a pas d'importance, mais quand c'est le président de l'autorité de sûreté nucléaire qui le dit, je pense qu'il faut en tenir compte dans une émission par rapport au public, parce que c'est ridicule ce qui vient d'être dit. Premièrement, il n'y a pas de différence du point de vue du risque d'accident, c'est-à-dire de fusion nucléaire, entre un réacteur, ça vient de la circulation de l'eau. Dans les deux cas, le refroidissement, c'est de l'eau. Et Lacoste, le précédent président, avait bien affirmé le même type d'accident est possible entre les bouillants et les pressurisés. Dont acte. Deuxièmement...
Donc là, c'est le modèle japonais,
par rapport au modèle français. Donc, le même accident est possible parce que c'est le même principe de refroidissement avec de l'eau. Et si vous perdez la circulation de l'eau par perte d'électricité, vous avez la fusion du cœur. Clair.
Sauf que avec une bonne enceinte de confinement, ça reste à l'intérieur.
Je ne vous ai pas interrompu. Deuxièmement, Three Mile Island est exactement le modèle des réacteurs français. les 50 réacteurs français, c'est des réacteurs à eau sous pression, qui sont les mêmes que ceux des États-Unis. À Three Mile Island, il n'y a eu ni tsunami, ni inondation. Il y a eu un défaut technique, c'est-à-dire une valve qui s'est parée là, et puis des fautes d'exploitation. Et donc, cet accident est parfaitement possible en France, puisque c'est le même type de réacteur. Et voilà. Et donc, le problème
les
que...
Les salles de commande ont évolué depuis.
Les salles de commande ont évolué depuis, simplement, bon.
Bah, oui.
Oui, d'accord, simplement, quand le problème qui est posé, et qui est un problème de choix politique et de choix citoyen, quand on dit qu'un accident de type Fukushima ou Tchernobyl, c'est-à-dire la catastrophe avec beaucoup de matière radioactive sur des territoires considérables, à partir du moment où on dit qu'il est possible, il faut poser le choix, est-ce que j'accepte cette possibilité, ou bien est-ce que je ne l'accepte pas ? Alors, à partir du moment où on me dit... Avant, on disait l'accident est impossible. Donc on pouvait dire, bon, l'accident est impossible. Maintenant, on dit l'accident est possible. Donc, posons qu'est-ce que cet accident donnerait. Et on voit bien que l'exemple de Dampierre, c'est en plus un endroit où il y a très peu de population. Mais si vous mettez ça à Fessenheim, ou à Gravelines, ou à Nogent-sur-Seine, enfin des endroits entourés de populations importantes, c'est vraiment une catastrophe qu'on n'imagine pas. Donc le choix, c'est ça.
Patrick Ricky, votre avis sur le point où on est arrivé, qui est...
Les pro-nucléaires qui parlent dans cette émission.
non, les pro-nucléaires, monsieur Lapoche n'est pas vraiment un pro-nucléaire. Patrick Ricky.
Sur ce sujet de la sûreté, ce qu'il faut noter, c'est que la dérive des coûts très importante, à laquelle on a assisté depuis plusieurs années dans le domaine du nucléaire, et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, les coûts du nucléaire ne sont plus aussi avantageux qu'ils pouvaient l'être il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. L'augmentation de ces coûts correspond bien à une prise en compte des risques. Alors, on n'est jamais au risque zéro, mais il est clair que progressivement, avec les effets d'apprentissage, il y a eu effectivement une amélioration des normes de sécurité, et que, alors pour le coup, ça se traduit en termes de coûts supplémentaires du nucléaire. Et je crois qu'une des grandes questions pour l'avenir, il ne faut pas tout ramener à la question des gaz à effet de serre, il ne faut pas tout ramener non plus à la question économique et à la compétitivité des différentes sources d'énergie. Mais c'est aussi une dimension à considérer. Une des grandes questions aujourd'hui, c'est des renouvelables dont les coûts ont considérablement baissé dans les dernières années, et du nucléaire dont les coûts ont considérablement augmenté. Comment va se jouer la compétition? Et là, on entre dans une autre catégorie de problèmes, qui est plutôt celle de l'équilibre des systèmes électriques et de la manière dont on peut imaginer faire fonctionner des systèmes électriques avec différents pourcentages, soit de d'énergie fossile, parce qu'il en reste dans certains pays, soit d'énergie nucléaire, soit d'énergie renouvelable. Et je crois qu'on ne peut pas non plus complètement éliminer cette dimension-là du problème.
Absolument, il semble effectivement quand même une grosse évolution au cours des dernières années, exactement celle que Patrick Ricky vient de décrire, c'est-à-dire les énergies renouvelables, le coût des panneaux solaires est en baisse très très rapide, et en revanche on découvre sans cesse de nouveaux coûts. Après Fukushima, la SN a imposé des mesures de sécurité supplémentaires dans les centrales,
oui, et les maladies aussi.
Qui ont coûté cher, en particulier d'ailleurs à Fessenheim, où il a fallu refaire... une partie du radier, c'est-à-dire ce qui est sous le cœur, enfin des gros travaux. Donc on a l'impression que les coûts sont en train de se croiser, c'est-à-dire que le nucléaire est de plus en plus cher, le renouvelable de moins en moins cher, chaque traîneur.
Oui, alors là, il y a une discussion un peu technique qui concerne le stockage et la nécessité de puissance de backup. Quand on parle du coût de l'éolien ou du photovoltaïque, alors d'abord, si on pouvait tout faire avec de l'éolien et du photovoltaïque et un peu de stockage, moi je serais absolument ravi. Hein. Je n'ai aucune attache au nucléaire, rien, ni d'ailleurs au photovoltaïque, ni à l'éolien. Je m'en fous. Je ne mets pas de notion de valeur derrière ça. Ce sont des systèmes techniques, c'est de la plomberie. Il faut que ce soit bien fait et que ça marche. Bon, alors maintenant, quand on discute de l'éolien et qu'on dit voilà le prix d'essence à parité, etc. L'éolien et le photovoltaïque produisent pas tout à fait du courant électrique, parce qu'un réseau électrique, ça fonctionne avec de la puissance garantie et pas avec de la puissance aléatoire ou intermittente. Donc en fait, quand on veut comparer des coûts, il faut inclure dans le photovoltaïque et l'éolien le coût qui permet de transformer quelque chose d'intermittent en quelque chose de lisse, c'est-à-dire avoir de la puissance de backup quand il n'y a pas de vent et savoir éliminer le trop-plein d'énergie quand il y a trop de vent et qu'il n'y a pas de demande. Et si vous incluez ce qu'il faut pour faire en sorte que l'électricité qui sort d'une éolienne avec le backup devienne de la puissance garantie, donc comestible par le réseau, alors là, je suis désolé, mais il n'y a pas de comparaison possible entre ces technologies-là, qui sont parfaites dans un cas comme la Pologne, parce qu'elle a un mix énergétique qui est quasiment que du charbon. Donc tout ce qu'ils font en renouvelable, c'est parfait. Donc il faut regarder le reste du mix électrique. S'il est capable d'absorber les fluctuations de l'éolien et du photovoltaïque, parfait, il faut y aller. Après, ça devient une question économique. Mais en France, c'est pas ça le chantier. Le chantier, c'est le transport et le chauffage des bâtiments, parce que c'est là qu'on consomme les combustibles fossiles.
Je peux intervenir, je ne sais pas si je suis à l'antenne.
Tout de suite, dans une seconde.
France Culture, Science Publique, Michel Alberganti.
Nous débattons aujourd'hui la question « La bataille du nucléaire aura-t-elle lieu en France ?» avec nos invités Bruno Combi, président de l'Association des écologistes pour le nucléaire, Patrick Criqui, économiste et directeur de recherche au CNRS, Jean-Jacques Delfour, philosophe et essayiste, Bernard Laponche, physicien et membre de l'association Global Chance, et Jacques Trainer, physicien. Jean-Acques Delfour voulait intervenir.
Oui, je voulais m'excuser tout à l'heure, je ne savais pas que j'étais
Pas de problème, on vous écoute.
Mais j'étais un peu fâché par l'abondance de propos en faveur nucléaire. Mais quand même, une chose qui est complètement dissimulée, c'est l'aspect sanitaire. C'est-à-dire que chaque centrale nucléaire pollue, diffuse dans l'environnement des radionucléides. Il y a eu des accidents nucléaires nombreux, avec Tchernobyl qui a pollué toute la France. Et continuer comme ça, ça veut dire qu'on prend le risque d'un accident nucléaire majeur, et quand on y sera, on ne pourra plus revenir en arrière. Et c'est pour 100 000 ans, avec des maladies innombrables. Il faut suivre un peu le travail de Banjajewski en Biélorussie. Les résultats de son travail sont extrêmement inquiétants. On est passé de 80% d'enfants non malades avant, vers 1980, avec les mêmes standards. 15 ans après, on est descendu à 20%.
Alors on a essayé de faire un bilan sur Tchernobyl. Et l'après Tchernobyl, ça paraît très difficile d'avoir des idées très claires sur les impacts sanitaires, justement. Bernard Laponche, quand on critique les énergies renouvelables, ce que vient de dire Jacques Trainer est très souvent mis en avant. Énergie alternative, difficile à stocker, donc pas de possibilité d'une assurance du service électrique, d'une certaine façon.
Bon, d'abord, elles sont variables. C'est mieux qu'intermittent, parce que c'est
intermittent, variable. En plus, c'est pas très bien connoté, Olivier.
Non, puis c'est pas ça. Variable, c'est juste. Mais il faut voir que, d'abord, vous pouvez avoir une assez forte proportion. Il ne faut pas les regarder séparément l'une après l'autre. Mais une éolienne toute seule, c'est vrai que c'est catastrophique. Bon, parce que quand il n'y a plus de vent. Mais déjà, un parc éolien, c'est un peu plus équilibré. Un ensemble de parcs sur un pays, ça vous fait une production éolienne qui est déjà beaucoup moins comme ça que...
Mais les éoliennes en mer, en plus, ont une...
En plus, les éoliennes en mer, c'est plus continu. Plus régulier. Si vous combinez l'éolien, le photovoltaïque, c'est pas les mêmes heures, etc. Donc, le mélange est intéressant. Si vous ajoutez la biomasse, c'est bien aussi, parce que du coup, la biomasse, elle, fonctionne comme on veut, enfin, comme une centrale fossile.
Et géothermie également est assez régulière.
Et on a une hydraulique de barrage en France, qui est actuellement utilisée pas mal à tort par EDF à cause du chauffage électrique, mais qui pourrait au contraire être utilisé pour justement aider à compenser la variabilité de l'éolien et du photovoltaïque. Donc si vous mettez tout ça ensemble, l'ensemble des renouvelables est beaucoup moins tragique que ce qu'on dit. Et déjà, ensuite, vous pouvez avoir une proportion importante de renouvelables sans que ça soit forcément 100%. Donc déjà, si on avait 10%, puis 20%, puis 30%, puis 40%, ce qui est prévu d'ailleurs pour 2030, ça vaut le coup, parce que justement, ce sont des énergies qui n'ont pas du tout les mêmes problèmes que les autres.
Bruno Combi.
Je crois qu'on a une comparaison intéressante à faire en comparant ce qui se passe en France et en Allemagne ou au Danemark, puisque ce sont des pays qui ont fait des choix différents de ceux de la France. Au Danemark, il n'y a pas de nucléaire du tout. Ils ont décidé de faire beaucoup d'énergie avec le vent, les renouvelables, la biomasse. Et bien, quand on regarde d'abord les émissions de CO2 sur le plan de l'écologie, en France, c'est 6 tonnes par an et par habitant. Au Danemark ou en Allemagne, c'est 10 tonnes, c'est-à-dire presque le double. Donc je pense qu'on n'a pas de leçon d'écologie à prendre chez les Danois ou les Allemands. Ensuite, si on prend ce plan du niveau de vie, puisqu'on a aujourd'hui quand même une crise financière, eh bien le coût de l'électricité en France, c'est 15 centimes le kilowattheure pour le grand public, et en Allemagne ou au Danemark, c'est 30 centimes, c'est-à-dire le double. Et donc ils ont finalement une énergie qui pollue beaucoup plus au niveau du CO2, et qui coûte deux fois plus cher. Donc je ne pense pas que ce soit un bon exemple à suivre. Il y en a encore un autre plus au sud, c'est l'Italie, qui a fait le choix de ne pas faire fonctionner ses centrales nucléaires, et où, de la même manière, ils émettent beaucoup plus de CO2 que les Français, avec une électricité beaucoup plus coûteuse. Donc je ne pense pas que ce soit là encore le bon exemple. Ce qui fait toute la différence entre le nucléaire et les autres énergies fossiles, c'est ce que j'appelle le facteur 1 million. Un gramme d'uranium, ça produit autant d'énergie qu'une tonne de pétrole. Un gramme pour une tonne, c'est un facteur 1 million, c'est énorme. Ça veut dire qu'on prend quasiment rien dans le sous-sol de notre planète. Et à l'autre bout de la chaîne, ça ne produit quasiment aucun déchet, qui peuvent donc être confinés et retraités de manière extrêmement performante.
Patrick, après cette description extrêmement idyllique du nucléaire, que pensez-vous de cette question du prix, puisque c'est quand même un élément qui joue un rôle important. Bruno Combi est obligé de nous quitter, mais nous allons poursuivre. Donc Patrick Riquy.
Je pense qu'il faut absolument éviter de poser ces problèmes, d'une part avec des solutions extrêmes, 75% de nucléaire d'un côté et 100% de renouvelables de l'autre, même si c'est intéressant, ça permet de réfléchir, ça permet de voir les conditions de faisabilité. Je crois que l'horizon important pour la décision, c'est l'horizon du moyen terme vers 2025-2030. Dans les engagements du président de la République, il y avait, au moment de la campagne de 2012, il y avait l'idée selon laquelle la part du nucléaire pourrait descendre à 50% à 2025. Alors aujourd'hui, on dit 2025, ce sera difficile, entre 2025 et 2030. Et cette descente du nucléaire, elle pouvait être intéressante parce qu'elle permettait d'ouvrir un espace pour le déploiement des énergies renouvelables, dont les énergies renouvelables variables en effet, et de, en quelque sorte, d'ouvrir les choix possibles pour le plus long terme. Et je crois que c'est tout de même, on est dans un monde extraordinairement compliqué, notre discussion d'aujourd'hui le montre, on est avec des incertitudes majeures, et il me semble que il serait une bonne gestion des risques, c'est quand même de conserver des portefeuilles de production qui soient à peu près équilibrés, et qui permettent par ailleurs, en général, précisément de limiter le coût global du système. Parce que si on fait un système 75% nucléaire d'un côté ou 100% renouvelable de l'autre, il y a de fortes chances pour que ces systèmes coûtent plus cher que des systèmes qui combineraient différentes solutions, qui les utiliseraient au mieux, qui mettraient en valeur leur complémentarité. Et je pense donc que l'objectif à moyen terme, 2025-2030, ce serait bien d'en rester aux 50%, de laisser de la place au déploiement des énergies renouvelables et de nous donner le temps de pouvoir regarder ce qui se passe ailleurs, en particulier chez nos voisins allemands qui effectivement sont partis pour à la fois une sortie du nucléaire et une forte progression des renouvelables. Je pense que ça va être extrêmement important d'observer ce qui se passe de l'autre côté du Rhin dans les années à venir. Aujourd'hui, effectivement, en termes de CO2, c'est pas terrible en effet comme résultat. Il faut voir, il faut observer et garder des options ouvertes pour le futur.
Alors 50% de nucléaire, on retombe dans la question un peu du début de ce débat, car on n'arrivera pas à 50% du nucléaire en 2025 sans fermer aucune centrale et en conservant le niveau actuel de production d'électricité. Jacques Trenner.
Si. Vous pouvez l'obtenir de deux façons différentes. Soit vous fermez des centrales, soit vous les faites fonctionner moins longtemps. Donc vous pouvez garder les mêmes, mais simplement l'électricité devient plus chère puisque le même équipement vous le faites fonctionner moins longtemps.
Si c'est plus cher, donc c'est pas forcément très intéressant.
Mais de toute façon, c'est pas.
Donc en fait, la meilleure solution, c'est de ne rien changer à ce qui existe aujourd'hui.
Non, pas du tout.
La solution la plus économique.
Du point de vue de l'électricité et en France.
Oui, c'est le sujet de notre débat aujourd'hui.
Non, non, parce que c'est l'énergie de façon plus globale.
Non, là on parle de l'électricité et en France.
Alors, l'électricité en France, je trouve que c'est pas ça la chose prioritaire. Mais je voulais dire un mot à propos des effets sanitaires, parce que notre ami philosophe y a fait allusion, et je crois qu'il a une fausse idée des choses. Il cite Bandajewski. Alors, ce rapport, il existe, je le sais. Il a été publié par l'Académie des sciences de New York, mais ça n'empêche qu'il est contesté par les principales autorités qui sont chargées de cela. Il y a, pour les rayonnements ionisants, un équivalent du GIEC, ça s'appelle l'UNSCEAR et le CICR. Alors, plutôt que Bandajewski, qui, on ne va pas entrer dans le détail maintenant de la méthodologie, etc., mais qui est contesté sur des points absolument fondamentaux, je préfère conseiller aux auditeurs d'aller voir sur le site de l'UNSCEAR, qui est relayé d'ailleurs par le site de l'IRSN, ce qu'il en est du bilan de Tchernobyl et de l'ensemble des accidents. En fait, il y a un très bon site avec plein d'informations, etc. Et je pense que par défaut, c'est là qu'il faut aller voir plutôt qu'un rapport qui est très fortement contesté. Oui. Juste un point, c'est que, qui est très délicat, mais je pense qu'il faut le dire et il faut y réfléchir. On considère aujourd'hui en France qu'un millisievert de radiation supplémentaire, ça n'est pas tolérable pour la population. La moyenne nationale, c'est 2,5. En Corse, c'est 3 fois plus. En Bretagne, c'est 3 fois plus. Mais au Kerala, c'est 70. Et dans certaines régions de Perse, c'est 100 millisieverts par an. Alors, le 1 millisievert n'a pas de sens du point de vue santé. Parce que dans ces zones où ça monte à quelques dizaines de millisieverts par an, il n'y a pas de catastrophe sanitaire observée.
Bernard Lapanche.
Oui, je reviens.
Vous pouvez intervenir à un moment donné.
Oui, tout de suite après.
Criqui fait essentiellement un raisonnement d'économiste. Et c'est normal, c'est-à-dire qu'on prend les différentes énergies et on essaie d'avoir le meilleur équilibre. Et en ce sens, les 50% de nucléaire, même pour des pronucléaires, c'est raisonnable parce que ça représente la base. Et en fait, on est arrivé à 75% parce qu'on en a fait trop par rapport aux prévisions qui étaient faites même dans les années 70. Et donc, c'est raisonnable dans une optique pronucléaire. Cela dit, Jean-Jacques Delfour, de l'autre côté, a raison, c'est-à-dire de dire, mais il y a quand même un problème très important posé par cette énergie très particulière, qui est le fait que, en cas d'accident et même en fonctionnement normal, cette production d'énergie nous produit des produits radioactifs, personne ne le nie, extrêmement dangereux, et qui restent dangereux pendant très longtemps, voire des milliers d'années.
Vous pouvez préciser ?
Le césium-137, le plutonium, enfin, tous les produits radioactifs sont très dangereux.
Il n'est pas dans la nature, dans les centrales. Il n'est pas largué dans la nature.
Il est largué en cas d'accident.
En
fonctionnement normal, il nous accumule les déchets radioactifs.
Qui peuvent être une ressource si la quatrième génération est mise en place.
Non, les déchets radioactifs.
Le plutonium.
Le plutonium. Alors, ne mélangeons pas. Il y a les produits de fission qui sont produits. En cas d'accident, ils vont sur des zones très importantes, et donc ça fait un problème de radioactivité à long terme, et on produit des déchets radioactifs en fonctionnement normal, qui sont aussi un fardeau dont on ne sait pas trop faire.
Oui, avec tout le débat autour de Bure et de l'enfouissement.
Voilà, ce qui pose quand même le problème de l'acceptation ou non de cette énergie, indépendamment des questions économiques.
Jean-Jacques Delfour.
Oui, je voudrais rajouter un mot aussi, si après.
Oui, alors très vite, Jean-Jacques Delfour, et ensuite Patrick Riffy.
Je conseille aux auditeurs de lire deux livres, La comédie atomique, l'histoire occultée des dangers des radiations par Yves Lenoir, qui vient de paraître aux éditions La Découverte, et un livre d'Annie Thébaumoni, qui s'intitule La science asservie, et qui montre à quel point et comment, depuis les deux livres, et je voudrais un troisième livre, La France nucléaire, de Cézanne Topchou. Je crois que ces trois livres mettent en lumière comment, depuis les années 1920, a été systématiquement mise en place une politique un paradigme du doute. C'est-à-dire une culture de l'ignorance. On ne sait pas bien, on ne sait pas. En multipliant les controverses scientifiques, en finançant des laboratoires, c'est très net dans le livre d'Annie Thébaumoni sur l'amiante, etc. C'est une pratique de la controverse qui est alimentée artificiellement. Et on débine Bandajewski avec des contre-expertises plus ou moins fumeuses. Et cette histoire-là est très longue. Et elle est normale. C'est-à-dire que si vous êtes industriel et que vous produisez quelque chose de très polluant, un produit qui entraîne des relâchements dans l'environnement de produits polluants, vous n'allez pas dire que c'est le cas, vous allez demander à un expert. Je voudrais parler d'un dernier point, un exemple frappant, c'est Proctor. Proctor a travaillé aux États-Unis sur la question du cancer et du tabac. Et il y a toujours des labos pour dire, oui, il y a un lien entre les deux, cancer et tabac, et d'autres labos, il n'y a pas de lien. Et il a fait un travail qui consistait à interroger chaque laboratoire et à repérer son financement. Il a abouti au résultat suivant, 100% des labos financés de près ou de loin par les cigarettiers ne trouvent pas de lien entre cancer et tabac, et 100% des labos qui sont indépendants trouvent un lien. Donc il y a une histoire de ça, cette histoire elle est méconnue ou mal connue en France. Les trois livres, La comédie atomique de Lenoir, La France nucléaire de Topchou et La science asservie sont de très bons documents, sont des chercheurs du CNRS.
Nous avons très bien compris.
Qui mettent à plat complètement tout ça.
Je suis obligé de vous couper parce que je voudrais que Patrick Riquy puisse intervenir. L'heure tourne. Patrick Riquy.
Oui, je voudrais dire juste un mot sur cette question des risques associés à la production d'énergie. Toutes les sources d'énergie entraînent un certain nombre de risques, et en particulier dans la production d'électricité, si on sort là du cadre français, et si on regarde ce qui se passe dans le monde, chez nos voisins proches, l'Allemagne ou beaucoup plus loin en Inde ou en Chine, on constate que l'option principale pour produire de l'électricité actuellement, c'est du charbon. Et les risques pour la santé associés à la production d'électricité à partir du charbon sont tout de même tout à fait considérables. Ce ne sont pas des risques d'ailleurs, ce sont des impacts dans les mines et évidemment tout le monde en a conscience. Dans les villes chinoises comme dans les villes indiennes, la pollution atmosphérique est absolument catastrophique. Elle entraîne des décès par milliers, voire par centaines de milliers. Et on a là un problème extraordinairement sérieux. C'est-à-dire qu'on est tout de même contraint, et c'est encore une fois une approche d'économiste, je le regrette, mais on est quand même contraint de comparer les risques associés aux différentes options, en sachant que, en particulier dans les pays émergents, il y a des besoins importants de consommation d'électricité, ne serait-ce que pour que les gens puissent vivre correctement dans des environnements qui ne sont pas forcément favorables. Quand on pense à la température qu'il fait en Inde habituellement, on voit bien qu'un minimum de ventilation pour le moins et de réfrigération pour les aliments, c'est quand même quelque chose d'important.
Très bien. Alors, juste un mot de conclusion par Jacques Trenner et par Bernard Laponche.
Oui,
Jacques
Trenner, je voulais rajouter aux trois livres un quatrième qui est Les marchands de doute de Naomi Oreskes et Eric Conway.
Que vous
avez traduit. Que je l'ai traduit. Donc, je connais bien cette problématique et je trouve que c'est absolument
Mais vous l'appliquez pas fondé. Vraiment au nucléaire, alors.
Si, bien sûr, bien sûr. Mais si vous prenez l'exemple d'Yves Lenoir, on va pas faire un débat sur Yves Lenoir. Mais il se trouve qu'il y a 20 ans, il y a des mentalités avec des invariants. Et il y a 20 ans, il a produit un livre sur le climat dans lequel toutes les institutions étaient menteuses, tricheuses et racontaient des bobards, et lui seul avait la vérité.
Vous avez
voilà, maintenant, ça a changé. 20 ans plus tard, c'est plus le climat, c'est le nucléaire, mais c'est la même logique.
Yves Lenoir, très bien. Un mot de Bernard Laponche, mais vraiment un mot, malheureusement, pour terminer.
Je pense qu'au niveau mondial, la solution est effectivement ce qu'on appelle maintenant la transition énergétique, c'est-à-dire, en premier lieu, les économies d'énergie ou l'efficacité énergétique, et de plus en plus de renouvelables. Et ça peut s'appliquer parfaitement à la France parce que on peut consommer deux fois moins. Et si on consomme deux fois moins, on peut fournir avec les énergies renouvelables.
Très bien. Eh bien, le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Bruno Combier, Patrick Riquy, Jean-Jacques Delfour, Bernard Laponche et Jacques Trenner d'avoir participé à cette émission. Sur notre site, vous trouverez des références de livres qu'ils ont publiés, que certains d'entre eux ont publiés, Le nucléaire, avenir de l'écologie de Bruno Combier, et également La condition nucléaire, réflexion sur la situation atomique de l'humanité de Jean-Jacques Delfour. Toujours sur notre site, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant 1 an et bien entendu nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. C'est possible tout en bas de la page de Sciences Publiques. La semaine prochaine, vendredi 24 juin, Sciences Publiques fera le point sur la lutte contre le réchauffement climatique qui a été évoqué au cours de cette émission à plusieurs reprises. Et ceci à mi-chemin entre la COP21 qui s'est tenue à Paris en décembre 2015 et la COP22 qui aura lieu à Marrakech en novembre 2016. L'accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 par 195 pays, vise à réduire à 2% voire 1,5% le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Quelle est la trajectoire actuelle de ce réchauffement et quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour infléchir cette courbe? Nous en débattrons avec nos invités. Sciences Publiques, Dany Journeau, Bruno Gagnère-Fontanille, avec à Toulouse, Vincent Jacob et à Grenoble, Pierre Alcalé, Michel Albergantin, Marie Dalquier.